2. Un peu d'avance, vous êtes bien sur Onde de Choc, Radio Libertaire bien sûr, 89.4, Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Eh bien, avec ce beau week-end de Pentecôte, on va entendre la voix, celle de Guy Debord, car la radio c'est aussi et surtout la voix, celle de Guy Debord, enregistrement de 1950-51, les environs de Fresnes.
Les environs de Fresnes. Participation de Guy Ernest Debord à une nouvelle culture radiophonique. Document pour une propagande terroriste. L'enregistrement intitulé Les environs de Fresnes est dédié à Serge Bernat de l'International Lettriste, actuellement détenu numéro 2797 au fort de Cormeilles en Parisie. On peut dire n'importe quoi ou dormir, les conséquences se ressemblent, mais le sommeil me plaît. Le bruit et le silence vont où ils veulent, les arts se font arbitrairement. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas, c'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener et de temps en temps parler dans le noir. Nous passons le temps. On peut tout dire. Quand l'avant-garde abolit l'écran, après traité de barre et d'éternité, film lettriste, voici l'anticoncept de Gilles Givolman, film qui s'intitule Expérimental. On le présentait lundi soir au Musée de l'Homme. Le principe de l'ouvrage, c'est simple, mais il fallait y penser. Vous supprimez l'image et vous gardez le son. Et quel son ? C'est fini le temps des poètes, assure le réalisateur. Ricanement, étranglement, borborique, monomatopée, emprunt au cours des halles, défilé de voyelles, de pronoms, de chiffres, fragments de conjugaison. Je me mouche, tu te mouches, donc nous sommes deux, et autres traits d'esprit assez. Le rôle d'information de la grande presse. Réponse au journaliste Robert Chazal, laudateur de Chaplin. Feu Chazal, tu as été mal inspiré de nous insulter pour défendre la dernière superproduction des artistes associés qui, comme chacun sait, te paye grassement. Nous avons par hasard pris connaissance à Bruxelles de cette preuve écrite de ta connerie permanente et décidé de casser ce qui te tient lieu de gueule sitôt que nous serons rentrés en France. Tu paieras pour les autres, dont tu as porté à la plus faisandée perfection la lâcheté conformiste et l'admiration publicitaire. Faux témoin, indicateur et probablement pédéraste, tu as assez bavé. Nous débarrasserons la presse française d'une de ses plus représentatives ordures. À très bientôt. Signé Jean-Louis Brault, Guy Ernest Debord, Gilles Givolman. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Monsieur J, d'où en sommes-nous avec le temps ? Le pianiste est mort sans nos regrets. Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre, comme il disait. Voici les petites filles dont nous nous sommes nourris sur la terre. Nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan la croisette vers d'autres nébuleuses. Elle a tant d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre. Les environs de Fresnes, je ne connais pas de plus beau titre métaphysique. L'histoire du cinéma est pleine de morts d'une grande valeur marchande. Jean-Michel dit, nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. nous sommes de très grands artistes. Février 1953, Serge Bernat nous écrit « Fiche de police métaphysique, de bord moraliste par nécessité, sachant ceci, honteux que la nécessité ait ce caractère ignoble de nécessaire. Intriguant, sinon il perd, faible, triste et prend peur devant les choses comme un enfant devant son cauchemar. De bord se lève le matin et se dit « Aujourd'hui, je ne me suiciderai pas. » Cette communication de Serge Bernat a été censurée à cause de son manque de valeur apologétique. Octobre 1952, fini les pieds plats. Les feux de la rampe ont fait fondre le phare du soi-disant mime génial et l'on ne voit plus qu'un vieillard sinistre et intéressé. Go home, Mr. Chaplin. Les vérités qui n'amusent plus deviennent des mensonges. L'émission Les environs de Fresnes a été enregistrée à tout hasard en avril 1952 et en mars 1953. C'est la voix de Guy Ernest Debord que vous entendez. Volman parlait. Bien sûr, la nuit tu rêves si tu pouvais toujours dormir, mais la vie menace. À chaque angle, il y a des flics et des indiques dans les bistrots. Les filles de ton âge sont marquées par la jeunesse. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre dans quelques instants un exposé clair de l'esthétique lettriste. Place Voltaire, place du commerce. Nous connaissons tous les ponts. Sans laisser de traces, est-ce que vous connaissez la Hongrie? Je vous parle. En novembre 1952, Guy Ernest Debord donne à son film cette préface. Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Éclaircissement sur le film Hurlement en faveur de Sade. Le spectacle est permanent. L'importance de l'esthétique fait encore après boire un assez bon sujet de plaisanterie. Nous sommes sortis du cinéma. Le scandale n'est que trop légitime. Jamais je ne donnerai d'explication. Maintenant, tu es toute seule avec nos secrets. À l'origine d'une beauté nouvelle. Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, tous les arts sont des jeux médiocres et qui ne changent rien. Son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Les conditions spécifiques du cinéma permettaient d'interrompre l'anecdote par des masses de silence vide. Tous les parfums de l'Arabie, l'aube de Vilaine, à l'origine d'une beauté nouvelle. Mais il n'en sera plus question. Tout cela n'était pas vraiment intéressant. Il s'agit de se perdre. Avril 1952, au Festival de Cannes, les lettristes mangent.
Ça va être ça? Tu en coupes plutôt dans la peau? Il n'y a pas de sucre. Sans sucre? Voilà. Moi j'ai un sucre. Merde, il n'y a pas de sucre. Il y a une petite
sucre. Jamais j'entends ça. Tu veux pas manger sans sucre, ça?
Si, mais non, je peux pas.
Tu vas manger de la confiture dedans.
Ah oui, c'est pas. Oui, c'est très bon.
Bien sûr.
Ah oui, la pâte, c'est très bon.
Les intellectuels, je sais pas. Alors, le confiture et le gourmand, je savais un peu.
Mais vous dites pourquoi moi je mettrais de la confiture là-dedans alors que sans sucre. Il suffit d'impressionner le monde, une politique d'intimidation.
Non, mais quand c'est bon, c'est bon.
Ça s'est fait dire qu'on ne voit pas. Le pain est dur, le pain est chaud. Vous avez le global.
Le repas, c'est lui. Et là, on fait ça.
Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Au bar du génie à la Bastille, à la maison hostie, les lettristes refusent a priori et sans conversation possible toutes les raisons de vivre ou de mourir, de boire ou de ne pas boire qu'on peut leur avancer. Les jeux que nous avons aimés, les mouvements de la parole, vont mourir dans leur dernier prestige. En avril 1952, Serge Bernat et Guy-Ernest Debord se promènent parmi les débris de l'ancienne poésie, en détraquent les mécanismes pour qu'elles ne soient plus que les réponses ou les demandes également dénuées d'importance du dernier dialogue acceptable.
Binaire, ta avis des voies lactées. Ta viva ovide. Ta vie déteste. Et le rêve de ta vie que le vide.
Voies lactées aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses.
Mais le vide est venu à Paris.
Nageurs morts, suivrons-nous Dahan ton cours vers d'autres nébuleuses.
Le voile énorme ne l'a pas repoussé. Il n'a pas pu repousser le voile énorme, il n'a pas pu.
Regret des yeux de la putain est belle comme une panthère, est belle comme une panthère, est belle comme une panthère.
À 10 ans, il avait 60 ans. Ses parents lui parurent schienen seine Eltern als wie des enfants à 5 ans, il se perdait dans la nuit.
Amour, beau baiser florentin, avait une saveur amère qui a rebuté nos destins.
Puis, il s'est oublié dans une fourmi, il s'est oublié dans une feuille, il s'est oublié dans l'ensevelissement de l'enfance.
Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes.
Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père dans les
et
larmes
des hommes. Et nos baisers mordus sanglants, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines.
N'a pas accepté Tahavi. N'a pas accepté ta vie, ayant reçu, n'a pas gardé par la porte, par la fenêtre, ta vie par la porte, par la fenêtre, a rejeté, il a vomi.
Mais en vérité, je l'attends, avec mon cœur, avec mon âme.
Par la volonté appuyée sur le souffle, par la pensée sans souffle, par son démon, ta vie. À rejeter.
Et sur le pont des revient-temps, et sur le pont des revient-temps, si jamais revient cette femme, je lui dirai je suis content.
Ta vie à rejeter.
De Paul-Henri Michuard, l'amoureuse repos dans le malheur.
Elle est debout,
le malheur,
sur mes paupières,
mon grand laboureur.
Et ses cheveux,
le malheur,
sont dans les miens.
Assieds-toi.
Elle a la forme.
Repose-toi.
De mes mains.
Reposons-nous un peu, toi et moi.
Elle a la couleur.
Repose.
De mes yeux.
Tu me trouves.
Elle s'engloutit.
Tu m'éprouves.
Dans mon ombre.
Tu me le prouves.
Comme une pierre.
Je suis ta ruine.
Sur le ciel.
Mon grand théâtre.
Elle a toujours
mon havre,
les yeux ouverts,
mon âtre,
et ne me laisse pas
ma cave d'or
dormir,
mon avenir,
ses rêves,
ma vraie mère,
en pleine lumière,
mon horizon,
font s'évaporer
dans ta lumière,
les soleils,
dans ton ampleur,
me font rire,
dans ton horreur,
pleurer et rire,
je m'abandonne.
Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Simplement des voyageurs pressés entre deux gares. Le pont Sully, l'ancienne guide de la 141e Paris,
Paul-Henri Michuard, au cœur de mon amour dans la nuit. Dans la nuit.
Un bel oiseau.
Dans la nuit.
Me montre la lumière.
Je me suis uni à la nuit.
Elle est dans ses yeux.
À la nuit sans limite.
Bien en vue.
À la nuit.
Il chante. Ce sera pour une autre planète. Au milieu du soleil.
Mienne.
Les yeux des animaux chanteurs.
Nuit.
Et leur chant.
Nuit de naissance.
De colère ou d'ennui.
Qui m'emplit de mon cri.
M'ont interdit.
De mes épis.
De sortir de ce lit.
Toi qui m'envahis.
J'y passerai ma vie.
Qui fait houle, houle.
L'aube dans des pays.
Qui fait houle tout autour.
Sans grâce.
Et fume.
Prend l'apparence.
Effort dense
de l'oubli.
Mugit.
Et qu'une femme émue s'endorme.
Est la nuit.
Allô.
Nuit qui gît.
La tête la première.
Une nuit implacable.
Sa chute l'illumine.
Et sa fanfare. Et sa plage.
Vous connaissez.
Sa plage en haut.
La forme de sa tête.
Sa plage partout.
Ici, tout s'obscurcit.
Sa plage boit.
Le paysage se complète.
Son poids est roi et tout ploie sous lui.
Sang ou joue.
Sous lui.
Les masses diminuent.
Sous lui. Ténue.
Et coule dans mon cœur.
Sous lui.
Avec le sommeil.
Sous la nuit.
Et qui donc veut
la nuit
me prendre le cœur
sous lui. Évident que ce qui précède.
Je l'ai vu couvert d'une cuirasse, couvert ses lots, c'était le ciel pur.
Alors mon cher, il faut un titre vite, un titre.
Couplet de la rue du tombeau.
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire.
Depuis qu'André Flattard l'a quitté.
On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons.
Quand il buvait un verre.
On veut des consonnes sans voyelles.
Ces ruines sont situées sur les bords d'un fleuve sinueux.
Parfaitement, des consonnes qui pètent sourdement.
Une à une agonie harmonieuse et multiple.
Imitez le son de la toupie.
Clopin clopant s'en allait des aveugles.
Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne.
Heureux s'il suffisait pour se faire aimer d'elle.
Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité.
Un peu profond ruisseau calomnier la mort.
De divers pélabios rendraient aussi vos discours claironnants.
Elle défunte nue en le miroir encore.
La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer.
Le noir roc courroucé que la bise le roule.
Si tu es un homme, tu m'accompagneras ce soir.
À l'autre au sein brûlé d'une antique amazone.
J'aurai dégusté lentement et tout seul pendant de longues soirées le toquet.
Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins.
Que de cœur dans Orcenise les gardes riaient, riaient. Vanifier la route grise, l'amour grise au charretier.
Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
Sur le boulevard de Grenelle, les ouvriers et les patrons, arbre de mai,
roulent dans cet ennui des feux vils pour témoins.
L'amour est mort entre tes... Merde. Ah, merde. L'amour est mort entre tes... L'amour est mort entre... Oh, puis non, je renonce. Vas-y.
Le sépulcre de désaveux.
J'ai les yeux d'un vrai veau marin.
Sous un marbre lourd qu'elle isole, ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console.
Édité chez Gallimard, 1945.
Le cri des gloires qui l'étouffe.
C'est la fête de Saint Olaf.
Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents.
Gaspard, je songe à Gaspard. Ce n'est certainement pas son vrai nom.
Dans l'éclaboussement des chutes impossibles.
Mais j'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme.
Montez les marches de la brume, nous approchons.
Deux animaux dissemblables, ennemis s'aimaient à couteau tiré.
Pour qu'un seul baiser la retienne.
Elle tenait à la main un fourreau.
Fuit une foule de grains, fuit la flamme et la fraîcheur, plus fort que le ciel lointain.
À lui, il s'était vu légué par Dieu un poignard affûté.
Que la beauté de l'homme est plus grande que ton espoir est vivant.
Toujours nous irons plus loin sans avancer jamais.
Que voulez-vous, la nuit était tombée.
Où est le perdu, où est la vie pour trouver la victoire?
Et par le pouvoir d'un mot.
Entre en moi.
Noué, rouillé comme un falot et caotant comme un éclair, le coin réserve sa saveur.
L'on a dit que Serge Bernard était une crapule, une crapule, une gouape, gouape.
En quête d'une végétation nouvelle. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte. Février 1953, manifeste pour l'international lettriste. La provocation lettriste sert toujours à passer le temps. La pensée révolutionnaire n'est pas ailleurs. Nous poursuivons notre petit tapage dans l'au-delà restreint de la littérature et faute de mieux. C'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants. La jeunesse est systématique, comme on dit. Les semaines se propagent en ligne droite, nos rencontres sont au hasard, et nos contacts précaires s'égarent derrière la défense fragile des mots. La terre tourne comme si de rien n'était. Pour tout dire, la condition humaine ne nous plaît pas. Nous avons congédié Isou, qui croyait à l'utilité de laisser des traces. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, car nous savons que toutes les idées ou les conduites qui existent déjà sont insuffisantes. La société actuelle se divise donc seulement en lettristes et en indicateurs, dont André Breton est le plus notoire. Il n'y a pas de nihilistes, il n'y a que des impuissants. Presque tout nous est interdit. Le détournement de mineurs et l'usage des stupéfiants sont poursuivis comme, plus généralement, tous nos gestes pour dépasser le vide. Plusieurs de nos camarades sont en prison pour vol. Nous nous élevons contre les peines infligées à des personnes qui ont pris conscience qu'il ne fallait absolument pas travailler. Nous refusons la discussion. Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement, sinon la terreur. Signé Sarah Aboif, Serge Bernat, Pierre-Joël Berlet, Jean-Louis Brault, René Lébé, Midou Daou, Guy Ernest Debord, Linda Fried, Françoise Lejar, Jean-Michel Mention, Eliane Papaye, Gilles J. Volman. Mars 1953, fait divers. À l'ombre de Saint-Germain-des-Prés, un groupe de jeunes gens s'adonnait à la marijuana. Le fournisseur de la drogue et ses clients sont arrêtés. Cet accord que les délégués à l'ONU tentent péniblement de faire régner entre les divers peuples du monde, il semble vraiment qu'il avait été réalisé sans difficulté depuis quelque temps par une dizaine de jeunes gens appartenant aux nationalités les plus éloignées. On les voyait au Mabillon, au Saint-Claude ou dans les bars de la rue du Four, et leur comportement à certaines heures donna à penser aux inspecteurs Dupont et Fèvre de la brigade mondaine qu'ils s'adonnaient sans doute aux stupéfiants. Une bagarre qui éclata l'autre nuit au Mabillon et à laquelle prit part une des jeunes femmes du groupe donna aux policiers l'occasion d'intervenir et d'enquêter sur leur existence. Le commissaire principal Arnal et l'officier de police Montsara devaient en fin de compte établir ceci. Ces jeunes gens et jeunes femmes, au nombre d'une dizaine, se réunissaient une ou deux fois par semaine chez l'un d'eux, Guenaro Borino, 29 ans, né à Maracaibo, au Venezuela, peintre abstrait qui habite rue de Seine. Venait là, Luis Moncana, 22 ans, né à Mexico, écrivain habitant rue Bonaparte. Carlos de Villodres, 28 ans, né à Tenerife, étudiant en philosophie, demeurant rue de la Grande Truanderie. Aïcha Khalib, 21 ans, nord-africaine, sans domicile fixe ni profession définie. Carmen Robetta, 22 ans, née à Madrid, étudiante, demeurant à Levallois. Edith Abadi, 18 ans, étudiante, la seule parisienne du groupe. Tout en devisant d'art ou d'autres sujets, il fumait des cigarettes de marijuana, nom donné en Amérique à ce produit tiré du cannabis indica que l'on nomme kif en Afrique du Nord et hashish dans le Proche-Orient. La drogue leur était fournie par un certain Pierre Feuillette, 26 ans, originaire de Rabat, et qui trois jours avant l'arrestation générale avait ramené du Maroc une livre du précieux produit qu'il revendait à raison de 100 francs. Le fournisseur de la drogue et ses clients ont été mis à la disposition du juge d'instruction Goletti, qui décidera de leur sort.
Toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dionymède de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie Mont Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 1h environ. Métro République aux Filles du Calvaire. Je vous rappelle que le 5 juin, 14h30, 16h, nous reprenons nos directs et ce sera avec la revue Empreinte et Claude Brabant. Plein de choses à se dire. Et le 19 juin, avec Patrick Dehas à propos de son pavé, le cinéma absolu sur Radio Liberté 89.4. A very strange of me.
Here is the wedding.
Bataille entre les lettristes et le public.
Interdiction de ce film par la censure.
Publication par l'ensemble des lettristes de l'unique numéro de la revue Young.
Tract et interruption lettriste au 5e festival cinématographique de Cannes.
Arrestation d'une dizaine de manifestants.
Sabotage du congrès de la jeune poésie réuni au musée pédagogique de la rue d'Ulm.
L'emploi de nombreuses forces de police contre les lettristes entraîne le retrait d'un grand nombre de participants.
Debord et Volman fondent arbitrairement à Bruxelles l'International Lettriste.
Présentation au ciné-club d'avant-garde du film de Debord, Hurlement en faveur de Sade.
L'assistance l'interrompt après 10 minutes de projection seulement.
L'International Lettriste attaque une conférence de presse tenue par Chaplin pour la présentation du film Limelight. Et il lance le tract « Fini les pieds plats ».
Exclusion de Jean-Isidore Isou et Maurice Lemaître, qui, dans la presse, ont désavoué le scandale.
Parution du premier numéro de la revue internationale lettriste.
1953.
Mohamed Dahou adhère à l'international lettriste.
Exclusion de Serge Bernat, suspect de déviation vers la littérature.
Fondation d'un groupe lettriste à Alger.
À Paris. Un lettriste qui se promenait nuitamment dans les catacombes se voit condamné à une peine de prison pour vagabondage et vol de plomb.
Il est acquitté en appel, mais exclu à quelque temps de là.
Rix pour plusieurs motifs idéologiques.
Premières expériences systématiques de dérive.
Exploration du continent contre escarpe.
Découverte de la rue sauvage.
Exclusion de Jean-Louis Brault, qui s'engage peu après dans le corps expéditionnaire d'Indochine.
Épuration d'une tendance nihiliste constituée dans l'international.
Patrick Strahan, qui vient d'adhérer à l'international lettriste, est arrêté.
Étant trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt, il est gardé illégalement 6 jours au dépôt, puis 2 mois à l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.
qu'il fait paraître dans le bulletin édité par les malades internés dans cet asile un éloge de la construction de situation.
1954.
La police ferme, en prenant prétexte d'un trafic de stupéfiants, un bar arabe du 5e arrondissement où les lettristes tenaient leur permanence.
Grande activité métagraphique du groupe. Straram, quelque part Salt Spring, Jilivin, réflexion sur l'échec de quelques révolutions dans le monde, tombeau du général Chin, Debord, progression des lettristes au cœur du continent contre ça, etc.
Démolition partielle de la rue Sauvage, entreprise par les travaux publics.
Volman organise l'exposition métagraphique de la galerie du Double Doute.
Exclusion de Jilivin.
Démission de Patrick Straram, alors au Canada, qui a pris parti pour les minoritaires.
Parution du premier numéro de Potlatch.
Plusieurs lettristes offrent de partir pour la guerre civile du Guatemala.
Sa soudaine fin malheureuse les en empêche.
Publication commune des surréalistes et des lettristes sur le centenaire officiel de Rimbaud, ça commence bien.
Les surréalistes reculent, finalement, devant l'intervention violente qu'ils avaient proposée.
Et ça finit mal, Fosser, tracte lettriste relatif à ces incidents.
Fondation d'un groupe suisse de l'international lettriste.
Dissolution immédiate de ce groupe sous la pression de la police helvétique.
1955.
Expérimentation psychogéographique dans le palais du facteur cheval.
Recherche et découverte des constructions du désert de Retz.
Adhésion d'Alexander Trocky.
Publication des premières études psychogéographiques. Debord, introduction à une critique de la géographie urbaine. Jacques Fillon, description raisonnée de Paris.
Approfondissement d'une théorie générale situationniste.
Publication de Pourquoi le lettrisme.
1956.
Première exploration du quartier chinois de Londres.
Publication de Mode d'emploi du détournement.
Première réalisation de cartographie psychogéographique.
Participation lettriste au mouvement international pour un Bauhaus imaginiste.
Démission de l'architecte Max Bill, directeur de l'école d'Ulm, en but aux attaques du mouvement.
International lettriste lance un ordre de boycott contre le festival de l'art d'avant-garde tenu dans l'unité d'habitation Le Corbusier, à Marseille.
Échec complet de cette manifestation réactionnaire.
Participation lettriste au congrès d'Alba, où les groupements progressistes de 8 nations sont représentés.
Adoption par le congrès du mot d'ordre de l'urbanisme unitaire.
Volman, j'écris propre, récit détourné.
Debord, théorie de la dérive.
Une seule entreprise nous paraît digne de considération. C'est la mise au point d'un divertissement intégral. L'aventurier est celui qui fait arriver les aventures plus que celui à qui les aventures arrivent. La construction de situations sera la réalisation continue d'un grand jeu délibérément choisi, le passage de l'un à l'autre de ces décors et de ces conflits dont les personnages d'une tragédie mouraient en 24 heures. Mais le temps de vivre ne manquera plus. À cette synthèse devront concourir une critique du comportement, un urbanisme influentiel, une technique des ambiances et des rapports dont nous connaissons les premiers principes.
Il faudra réinventer en permanence l'attraction souveraine que Charles Fourier désignait dans le libre jeu des passions.
Après quelques années passées à ne rien faire au sens commun du terme, nous pouvons parler de notre attitude sociale d'avant-garde, puisque dans une société encore provisoirement fondée sur la production, nous n'avons voulu nous préoccuper sérieusement que des loisirs.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. L'adjectif psychogéographique, conservant un assez plaisant vague, peut donc s'appliquer aux données établies par ce genre d'investigation, aux résultats de leur influence sur les sentiments humains, et même, plus généralement, à toute situation ou toute conduite qui paraissent relever du même esprit de découverte.
Piranèse est psychogéographique dans l'escalier. Claude Lorrain est psychogéographique dans la mise en présence d'un quartier de palais et de la mer. Le facteur cheval est psychogéographique dans l'architecture. Arthur Cravant est psychogéographique dans la dérive pressée. Jacques Vacher est psychogéographique dans l'habillement. Louis II de Bavière est psychogéographique dans la royauté. Jacques Léventreur est probablement psychogéographique dans l'amour. Saint-Just est un peu psychogéographique dans la politique. La terreur est dépaysante.
Toutes les maisons sont belles. L'architecture doit devenir passionnante. Nous ne saurions prendre en considération des entreprises de construction plus restreintes.
Dans cette époque de plus en plus placée, pour tous les domaines sous le signe de la répression, il y a un homme particulièrement répugnant, nettement plus flic que la moyenne. Il construit des cellules unités d'habitation, il construit une capitale pour les Népalais, il construit des ghettos à la verticale, des morts pour un temps qui en a bien l'usage, il construit des églises. Le protestant modulor, le Corbusier Sing Sing, le barbouilleur de crut néo-cubiste, fait fonctionner la machine à habiter pour la plus grande gloire du Dieu qui a fait à son image les charognes et les Corbusiers. Et le premier confort que nous souhaitons sera l'élimination des idées de cet ordre et des mouches qui les propagent. Qu'est-ce que M. le Corbusier soupçonne des besoins des hommes? Les cathédrales ne sont plus blanches et vous nous envoyez ravis. L'ensoleillement et la place au soleil, on connaît la musique, orgue et tambour MRP et les pâturages du ciel où vont brouter les architectes défunts. Enlever le bœuf, c'est de la vache.
Le nouvel urbanisme est inséparable de bouleversements économiques et sociaux heureusement inévitables. Il est permis de penser que les revendications révolutionnaires d'une époque sont fonction de l'idée que cette époque se fait du bonheur. La mise en valeur des loisirs n'est donc pas une plaisanterie.
Cet air d'avoir été bien au-delà des choses, cette pensée assurée qui dénotait le long des tours des parcours inutiles. Alors, que faire? L'art, les mondanités, vaut pour qui le nom d'Henri Michaud? La religion, la drogue, l'opium des peuples? La carte du parti, gros Louis comme devant? La jeunesse, Marie Chantal, Marie Salope. Le jeu, par 2-0. L'amour et ses méfaits. La vitesse, James Dean. Les bonnes affaires, le Suez. La pêche à la ligne. L'international, les tristes, rembourse les modes de vie, même ceux commencés ailleurs.
En 1947, la poésie onomatopéique marquait la première intervention scandaleuse d'un nouveau courant d'idées. Un groupe réuni sous la dénomination de lettristes, à cause de la poétique qu'il proclamait, devait dans les années qui suivirent étendre son champ d'action au roman, à la peinture, 1950, et au cinéma, 1951. Dadaïsme en positif, cette époque du mouvement opéra la critique de l'évolution formelle des disciplines esthétiques dans un souci exclusif de nouveauté qui n'était pas, comme on nous l'a trop facilement objecté, goût de l'originalité à tout prix, mais volonté de se soumettre les mécanismes de l'invention. L'élargissement dialectiquement prévisible des objectifs du lettrisme, marqué par de vives luttes de factions et l'exclusion de meneurs dépassés, devait situer le problème dans la seule utilisation de ces mécanismes à des fins passionnelles. L'International lettriste, fondé en juin 1952, à grouper la tendance extrémiste du mouvement.
Depuis un siècle, toute démarche artistique part d'une réflexion sur sa matière, aboutit à une réduction plus extrême de ses moyens. L'art moderne pressent et réclame un au-delà de l'esthétique, dont ses dernières variations formelles ne font qu'annoncer la venue. À cet égard, l'importance du surréalisme et d'avoir considéré la poésie comme simple moyen d'approche d'une vie cachée et plus valable. Mais le matin ne garde que peu de traces des constructions oniriques inachevées. Les années passent bourgeoisement, en attendant du hasard objectif d'improbables passantes, d'incertaines révélations. Deux générations ne peuvent pas vivre sur le même stock d'illusions.
La dernière après-guerre en Europe semble bien devoir se définir historiquement comme la période de l'échec généralisé des tentatives de changement, dans l'ordre affectif comme dans l'ordre politique. alors que des inventions techniques spectaculaires multiplient les chances des constructions futures, en même temps que les périls des contradictions encore non résolues, on assiste à une stagnation des luttes sociales et, sur le plan mental, à une réaction totale contre le mouvement de découverte qui a culminé aux environs de 1930, en associant les revendications les plus larges à la reconnaissance des moyens pratiques de les imposer. L'exercice de ces moyens révolutionnaires s'étant montré décevant, de la progression du fascisme à la Deuxième Guerre mondiale, le recul des espoirs qui s'étaient liés à eux était inévitable. Après l'incomplète libération de 1944, la réaction intellectuelle et artistique se déchaîne partout. La peinture abstraite, simple moment d'une évolution picturale moderne où elle n'occupe qu'une place assez ingrate, est présentée par tous les moyens publicitaires comme le fondement d'une nouvelle esthétique. L'alexandrin est voué à une renaissance prolétarienne dont le prolétariat se serait passé comme forme culturelle avec autant d'aisance qu'il se passera du quadrige et de la trirème comme moyen de transport. Des sous-produits de l'écriture qui a fait scandale et que l'on n'avait pas lu 20 ans auparavant obtiennent une admiration éphémère mais retentissante. Poésie de Prévert ou de Char, prose de Gracq, théâtre de l'atroce crétin Pichette, tous les autres. Le cinéma, où les divers procédés de mise en scène anecdotique sont usés jusqu'à la corde, acclame son avenir dans le plagiaire d'Essica, trouve du nouveau, de l'exotisme plutôt, dans quelques films italiens où la misère a imposé un style de tournage un peu différent des habitudes hollywoodiennes, mais si loin après Eisenstein. On sait de plus à quel laborieux remaniement phénoménologique se livrent des professeurs qui, par ailleurs, ne dansent pas dans des caves.
En janvier 1952, le film, traité de bave et d'éternité, passe dans une salle parisienne. Les lettristes sont alors groupés autour d'Izou et soutiennent violemment son entreprise cinématographique. Madame, j'ai lu votre critique du film de Jean-Isidore Izou dans Libération, écrit de bord au critique Simone Dubreuil. Mais vous êtes horrible à voir, ce qui devrait vous interdire de mettre vos grands pieds sur des questions intellectuelles.
Nous rappelons qu'il s'agit d'inventer des jeux nouveaux.
Les provocations insupportables que le groupe lettriste avait lancées, poésie réduite aux lettres, récits métagraphiques, cinéma sans images, déchaînaient une inflation mortelle dans les arts.
Jean-Isidore Izou assure.
Nous nous méfions trop du repos des autres et de notre propre fatigue pour ne pas avancer au-delà de ces données. Nous y reviendrons. Le monde ne se débarrassera plus jamais de nous.
Le groupe lettriste, vers 1950, tout en exerçant une louable intolérance à l'extérieur, admettait parmi ses membres une assez grande confusion d'idées. La poésie onomatopéique elle-même, apparue avec le futurisme, est parvenue plus tard à une certaine perfection avec Kurt Schwitters et quelques autres, n'avait plus d'intérêt que par la systématisation absolue qui la présentait comme la seule poésie du moment, condamnant ainsi à mort toutes les autres formes et elle-même à brève échéance. Cependant, la conscience de la vraie place où nous était donné de jouer était négligée par beaucoup au profit d'une conception enfantine du génie et de la renommée. La tendance alors majoritaire accordait à la création de formes nouvelles la valeur la plus haute parmi toutes les activités humaines. Cette croyance à une évolution formelle, n'ayant de cause ni de fin qu'en elle-même, est le fondement de la position idéaliste bourgeoise dans les arts. Leur croyance imbécile en des catégories conceptuelles immuables devait justement conduire quelques exclus du groupe à un mysticisme américanisé. L'intérêt de l'expérience d'alors était tout dans une rigueur qui, tirant les conséquences qu'un idiot comme Malraux ne sait ou n'ose pas tirer de prémices foncièrement semblables, on venait à ruiner définitivement cette démarche formaliste en la portant à son paroxysme. L'évolution vertigineusement accélérée, tournant désormais à vide, en rupture évidente avec tous les besoins humains.
l'utilité de détruire le formalisme par l'intérieur est certaine. Il ne fait aucun doute que les disciplines intellectuelles, quelle que soit l'interdépendance qu'elles entretiennent avec le reste du mouvement de la société, sont sujettes, comme n'importe quelle technique, à des bouleversements relativement autonomes, à des découvertes nécessitées par leur propre déterminisme. Juger tout, comme on nous y invite, en fonction du contenu, cela revient à juger des actes en fonction de leurs intentions. S'il est sûr que l'explication du caractère normatif et du charme persistant de diverses périodes esthétiques doit plutôt être cherchée du côté du contenu, échange dans la mesure où des nécessités contemporaines font que d'autres contenus nous touchent, entraînant une révision du classement des grandes époques, il est non moins évident que les pouvoirs d'une œuvre dans son temps ne sauraient dépendre du seul contenu. On peut comparer ce processus à celui de la mode. Au-delà d'un demi-siècle, par exemple, tous les costumes appartiennent à des modes également passés dont la sensibilité contemporaine peut retrouver telle ou telle apparence. Mais tout le monde ressent le ridicule de la tenue féminine d'il y a 10 ans. Ainsi, le mouvement précieux, si longtemps dissimulé par les mensonges scolaires sur le XVIIe siècle, et bien que les formes d'expression qu'il est inventé nous soient devenues aussi étrangères qu'il est possible, est en passe d'être reconnu comme le principal courant d'idées du grand siècle, parce que le besoin que nous ressentons en ce moment d'un bouleversement constructif de tous les aspects de la vie trouve le sens de l'apport capital de la préciosité dans le comportement et dans le décor. La conversation, la promenade comme activité privilégiée, en architecture, la différenciation des pièces d'habitation, un changement des principes de la décoration et de l'ameublement. Au contraire, quand Roger Vaillant écrit Bon Masque, dans un ton stendhalien, malgré un contenu presque estimable, il garde la possibilité de plaire par un pastiche, joliment fait. C'est-à-dire que, contrairement sans doute à ses intentions, il s'adresse avant tout à des intellectuels d'un goût périmé. Et la majorité de la critique qui s'attaque sottement au contenu, déclaré invraisemblable, salue l'habile prosateur.
La nouvelle société qui reprend les buts d'existence de l'ancienne, faute d'avoir reconnu et imposé un désir nouveau, c'est là le courant vraiment utopique du socialisme.
D'une opposition fondamentale qui est en définitive le conflit d'une manière assez nouvelle de conduire sa vie contre une habitude ancienne de l'aliéné, procédaient des antagonismes de toutes sortes, provisoirement aplanis en vue d'une action générale qui fut divertissante et que, malgré ses maladresses et ses insuffisances, nous tenons encore aujourd'hui pour positive. La crise du lettrisme, annoncée par l'opposition quasi ouverte des attardés à des essais cinématographiques qu'ils jugeaient de nature à les discréditer par une violence inhabile, éclata en 1952 quand l'Internationale lettriste, qui groupait la fraction extrême du mouvement autour d'une revue de ce titre, jeta des tracts injurieux à une conférence de presse tenue par Chaplin. Les lettristes esthètes, depuis peu minoritaires, se désolidarisèrent après coup, entraînant une rupture que leurs naïves excuses ne réussirent pas à différer, ni à réparer dans la suite. Parce que la part de création apportée par Chaplin dans le cinéma le rendait, à leur sens, inattaquable. Le reste de l'opinion révolutionnaire nous réprouva encore plus sur le moment, parce que l'œuvre et la personne de Chaplin lui paraissaient devoir rester dans une perspective progressiste. Depuis, bien des gens sont revenus de cette illusion. Dénoncer le vieillissement des doctrines ou des hommes qui ont attaché leur nom, c'est un travail urgent et facile pour quiconque a gardé le goût de résoudre les questions les plus attirantes posées de nos jours. Quant aux impostures de la génération perdue qui s'est manifestée entre la dernière guerre et aujourd'hui, elles étaient condamnées à se dégonfler d'elles-mêmes. Toutefois, étant connue la carence de la pensée critique que ces trucages ont trouvée devant eux, on peut estimer que le lettrisme a contribué à leur plus rapide effacement, et qu'il n'est pas étranger à ce fait qu'à présent à Ionesco, refaisant 30 ans plus tard, en 20 fois plus bête, quelques outrances scéniques de Zara, ne rencontre pas le quart de l'attention détournée il y a quelques années vers le cadavre surfait d'Antonin Artaud.
Qui a composé la chanson? C'est un tambour du bataillon. Qui a composé la chanson? C'est un tambour du bataillon. C'était un soir en battant la retraite. En pensant à sa vie que toujours il regrette.
Les groupes désignent à cette époque du monde tendent fâcheusement à nous limiter. Sans doute, le terme de lettriste définit assez mal des gens qui n'accordent aucune estime particulière à cette sorte de bruitage et qui, sauf sur des bandes sonores de quelques films, n'en font pas usage. Mais le terme de français semble nous prêter des liens exclusifs avec cette nation et ses colonies. L'athéisme se voit désigné comme chrétien, juif ou musulman avec une facilité déconcertante. Et puis, il est notoire que c'est une éducation bourgeoise plus ou moins raffinée que nous tenons, sinon ces idées, du moins ce vocabulaire. Ainsi, bon nombre de termes furent gardés, malgré l'évolution de nos recherches et l'usure, entraînant l'épuration, de plusieurs vagues de suiveurs, international lettriste, métagraphie et autres néologismes dont nous avons remarqué qu'ils excitaient d'emblée la fureur de toutes sortes de gens. Ces gens-là, la condition première de notre accord reste de les tenir éloignés de nous. Les disparus du lettrisme commencent à faire nombre, mais il y a infiniment plus d'êtres qui vivent et qui meurent sans rencontrer jamais une chance de comprendre et de tirer parti. De ce point de vue, chacun est grandement responsable des quelques talents qu'il pouvait avoir. Devrions-nous accorder à de misérables démissions particulières une considération sentimentale?
Le dimanche 15 août 1954, à 22h30, un autocar vide, lancé à grande vitesse, s'écrasait à l'intérieur du bar Tonneau d'Or, au 32 rue de la Montagne Geneviève, notoirement utilisé par l'international lettriste. On relevait 4 blessés parmi les consommateurs. Par un heureux hasard, il n'y avait dans le bar aucun des lettristes qui devait y stationner à l'heure de l'accident.
Les grandes villes sont favorables à la distraction, que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor.
Gilly Vin formule en 1953 une théorie des quartiers état d'âme.
Les quartiers de cette ville pourraient correspondre aux divers sentiments catalogués. Le quartier sinistre, par exemple, remplacerait avantageusement ces trous, bouches des enfers, que bien des peuples possédaient jadis dans leur capitale. Ils symbolisaient les puissances maléfiques de la vie. Le quartier sinistre n'aurait nul besoin de recéler des dangers réels, tels que pièges, oubliettes ou mines. Il serait d'approche compliquée, affreusement décorée. Sifflets stridents, cloches d'alarme, sirènes périodiques à cadence irrégulière, sculptures monstrueuses, mobiles mécaniques à moteur, et peu éclairées la nuit autant que violemment éclairées le jour par un emploi abusif du phénomène de réverbération. Au centre, la place du mobile épouvantable. La saturation du marché par un produit provoque la baisse de ce produit. L'enfant apprendrait par l'exploration du quartier sinistre à ne plus craindre les manifestations angoissantes de la vie, mais à s'en amuser. L'activité principale des habitants sera la dérive continue.
Extrait de la déclaration du 5 mai 1954.
Il convient de dicter une autre condition humaine. Les interdits économiques et leurs corollaires moraux vont être de toute façon détruits bientôt par l'accord de tous les hommes. Les problèmes auxquels nous sommes obligés d'accorder encore quelque importance seront dépassés, avec les contradictions d'aujourd'hui, car les anciens mythes ne nous déterminent que jusqu'au jour où nous en vivons de plus violents. Une civilisation complète devra se faire, où toutes les formes d'activité tendront en permanence au bouleversement passionnel de la vie. Cette grande civilisation qui vient construira des situations et des aventures. Une science de la vie est possible. La pratique du dépaysement et le choix des rencontres, le sens de l'inachèvement et du passage, l'amour de la vitesse transposée sur le plan de l'esprit, l'invention et l'oubli sont parmi les composantes d'une éthique de la dérive dont nous avons déjà commencé l'expérience dans la pauvreté des villes de ce temps.
Toutes les maisons sont belles. L'architecture doit devenir passionnante. Nous ne saurions prendre en considération des entreprises de construction plus restreintes.
Les constructeurs en sont perdus, mais d'inquiétantes pyramides résistent aux banalisations des agences de voyage. Le facteur cheval a bâti dans son jardin d'haute rive, en travaillant toutes les nuits de sa vie, son injustifiable palais idéal, qui est la première manifestation d'une architecture de dépaysement. Ce palais baroque qui détourne les formes de divers monuments exotiques et d'une végétation de pierre ne sert qu'à se perdre. Son influence sera bientôt immense. La somme de travail fournie par un seul homme avec une incroyable obstination n'est naturellement pas appréciable en soi, comme le pensent les visiteurs habituels, mais révélatrice d'une étrange passion restée informulée. Ébloui du même désir, Louis II de Bavière élève à grands frais dans les montagnes boisées de son royaume quelques délirants châteaux factices, avant de disparaître dans des eaux peu profondes. La rivière souterraine qui était son théâtre, ou les statues de plâtre dans ses jardins, signale cette entreprise absolutiste et son drame. Il y a là, bien sûr, tous les motifs d'une intervention pour la racaille des psychiatres, et encore des pages à baver pour les intellectuels paternalistes qui relancent de temps en temps un naïf. Mais la naïveté est leur fait. Ferdinand Cheval et Louis de Bavière ont bâti les châteaux qu'ils voulaient, à la taille d'une nouvelle condition humaine.
La poésie a épuisé ses derniers prestiges formels.
Pets! Pets up! Pets up! Pets up!
Ovilton! Ovilton!
Pets up!
Ovilton!
Gagen dans le kies, vrille le chat! Gagen dans le kies, vrille le chat! Gagen dans le kies, vrille le chat!
Gizil, tagazelli, gizil, 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 dalaganuel, tagazelli, glash, gange, glash, 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 gange, rein, rein, blem, 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 bless, blem, 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 bless, blem, 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 bless, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tête, hop, tête, hop, tête, hop, tête, hop, tête, hop, tête, hop, tête.
La poésie a épuisé ses derniers prestiges formels. Au-delà de l'esthétique, elle est toute dans le pouvoir des hommes sur leurs aventures. La poésie se lit sur les visages. Il est donc urgent de créer des visages nouveaux. La poésie est dans la forme des villes. Nous allons donc en construire de bouleversantes. La beauté nouvelle sera de situation, c'est-à-dire provisoire et vécue. Les dernières variations artistiques ne nous intéressent que pour la puissance influentielle que l'on peut y mettre ou y découvrir. La poésie, pour nous, ne signifie rien d'autre que l'élaboration de conduites absolument neuves et les moyens de s'y passionner.
en attendant la fermeture des églises, appel de l'International Lettriste en août 1953.
Malgré ce calendrier de 1793 qui essayait d'imposer un autre style, le mot déplaisant de saint continue de salir les murs d'une multitude de rues parisiennes dont il commande l'appellation. Depuis quelques mois, nous nous plaisons à mener campagne pour la suppression de ce vocable, dans la correspondance comme dans nos conversations. Les noms des rues sont passagers. Qu'est-ce que l'avenir en gardera, sinon peut-être, pour mémoire, l'impasse de l'Enfant Jésus, 15e arrondissement, métro Pasteur. L'administration des postes se soumet dès à présent aux vœux de son public. Les lettres parviennent boulevard Germain ou rue Honoré. Nous invitons la partie saine de l'opinion à soutenir cette entreprise de salubrité publique.
Leur faire avaler leur chewing-gum. Appel publié par l'International Lettriste le 16 juin 1954, trois jours avant l'invasion du Guatemala par les mercenaires du capitalisme américain.
Une fois de plus, Foster Roth et Dulles vous appellent aux armes. Le Guatemala a exproprié l'United Fruit, trust qui exploitait la gomme et les habitants de ce pays pour en tirer l'indispensable chewing-gum. Le dieu des armées anticommunistes s'est exprimé en ces termes. Pour écarter ces forces du mal, il faut recourir à une action pacifique et collective. L'action est en cours. Les armes, made in USA, sont déjà livrés au Honduras et au Nicaragua réactionnaire. L'Amérique repart pour la croisade. Juste dans le détail, on reprend les méthodes qui ont détruit l'Espagne républicaine. Le gouvernement de Narbenz Guzman doit armer les ouvriers. Aux sanctions économiques, aux attaques militaires de l'impérialisme, il faut répondre par la guerre civile portée dans les pays asservis d'Amérique centrale et par l'appel aux volontaires d'Europe.
C'est pas régulier.
Le nouvel urbanisme est inséparable de bouleversements économiques et sociaux, heureusement inévitables.
Extrait du procès-verbal de la réunion lettriste du 26 septembre 1955, consacré au choix de mots d'ordre pour l'urbanisme à Paris.
Gardez les gares telles qu'elles sont. Leur laideur assez émouvante ajoute beaucoup à l'ambiance de passage qui fait le léger attrait de ces édifices. Gilles Givolman réclame que l'on supprime ou que l'on fausse arbitrairement toutes les indications concernant les départs, destinations, horaires, etc. Ceci pour favoriser la dérive. Après un vif débat, l'opposition qui s'était exprimée renonce à sa thèse et le projet est admis sans réserve. Accentuer l'ambiance sonore des gares par la diffusion d'enregistrements provenant d'un grand nombre d'autres gares et de certains ports. Suppression des cimetières. Destruction totale des cadavres et de ce genre de souvenirs, ni cendres, ni traces. L'attention doit être attirée sur la propagande réactionnaire que représente, par la plus automatique association d'idées, cette hideuse survivance d'un passé d'aliénation. Peut-on voir un cimetière sans penser à Mauriac, à Gide, à Edgar Faure? Abolition des musées et répartition des chefs-d'œuvre artistiques dans les bars. L'œuvre de Philippe de Champaigne dans les cafés arabes de la rue Xavier Privat. Le sacre de David au tonneau de la montagne Geneviève. Enlèvement des statues qui restent, dont la signification est dépassée, dont les renouvellements esthétiques possibles sont condamnés par l'histoire avant leur mise en place. On pourrait élargir utilement la présence des statues pendant leurs dernières années par le changement des titres et inscriptions du socle, soit dans un sens politique, le tigre dit Clémenceau sur les Champs-Élysées, soit dans un sens déroutant, hommage dialectique à la fièvre et à la quinine, à l'intersection du boulevard Michel et de la rue Comte, les grandes profondeurs, place du Parvis dans l'île de la Cité. Pour les églises, quatre solutions différentes ont été avancées et reconnues défendables jusqu'au jugement par l'expérimentation qui fera triompher promptement la meilleure. Guernesse Debord se déclare partisan de la destruction totale des édifices religieux de toute confession. qu'il n'en reste aucune trace et qu'on utilise l'espace. Gilles Givolman propose de garder les églises en les vidant de tout concept religieux, de les traiter comme des bâtiments ordinaires, d'y laisser jouer les enfants. Michel Bernstein demande que l'on détruise partiellement les églises de façon que les ruines subsistantes ne décèlent plus leur destination première. La tour Jacques, boulevard de Sébastopol, en serait un exemple accidentel. La solution parfaite serait de raser complètement l'église et de reconstruire des ruines à la place. La solution proposée en premier est uniquement choisie pour des raisons d'économie. Jacques Fillon, enfin, veut transformer les églises en maisons à faire peur, utiliser leur ambiance actuelle en accentuant ses effets paniques. Tous s'accordent à repousser l'objection esthétique, à faire taire les admirateurs du portail de Chartres. La beauté, quand elle n'est pas une promesse de bonheur, doit être détruite. Et qu'est-ce qui représente mieux le malheur que cette sorte de monument élevé à tout ce qui n'est pas encore dominé dans le monde, à la grande marge inhumaine de la vie?
Notre époque est parvenue à un niveau de connaissances et de moyens techniques qui rend possible une construction intégrale des styles de vie. Seules les contradictions de l'économie régnante en retard d'utilisation. C'est l'existence de ces possibilités qui condamne l'activité esthétique dépassée dans ses ambitions et ses pouvoirs, de même que la maîtrise de certaines forces naturelles a condamné l'idée de Dieu. Il est inutile d'attendre une invention esthétique importante, aussi peu intéressante que les timbres post-oblitérés, et forcément aussi peu variées qu'eux, les productions littéraires ou plastiques ne sont plus les signes que d'un commerce abstrait. La phase de transition que nous vivons bouleverse l'ordre des préséances dans le choix des structures, des cadres et du public, des moyens dits d'expression qui doivent servir de moyens d'action sur le cours des événements. Ainsi, la publicité et la propagande nous paraissent primer toute notion de beauté durable. Les travaux métagraphiques de certains d'entre nous ne sont pas destinés au musée du Louvre, mais à établir des maquettes d'affiches. Il vous est loisible de penser que ces considérations sont la dernière et la plus outrageante forme de cette mystification lettriste trop longtemps poursuivie par un groupe de plaisantins sans talent et qu'une avant-garde d'une saine originalité peut fort bien prendre la relève culturelle. Cherchez-la.
Dans son ensemble, l'héritage littéraire et artistique de l'humanité doit être utilisé à des fins de propagande partisane. Il s'agit bien entendu de passer au-delà de toute idée du scandale. La négation de la conception bourgeoise du génie et de l'art ayant largement fait son temps, les moustaches de la Joconde ne présentent aucun caractère plus intéressant que la première version de cette peinture. Il faut maintenant suivre ce processus jusqu'à la négation de la négation. À vrai dire, il faut en finir avec toute notion de propriété personnelle en cette matière. Le surgissement d'autres nécessités rend caduques les réalisations géniales précédentes. Elles deviennent des obstacles, de redoutables habitudes. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non portés à les aimer. Nous devons passer outre. Tous les éléments pris n'importe où peuvent faire l'objet de rapprochements nouveaux. Il va de soi que l'on peut non seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d'œuvres périmées dans une nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de toutes les manières que l'on jugera bonnes ce que les imbéciles s'obstinent à nommer les citations. De tels procédés parodiques ont été souvent employés pour obtenir des effets comiques, mais le comique met en scène une contradiction à un état donné, posé comme existant. En la circonstance, l'état de choses littéraires nous paraissant presque aussi étranger que l'âge du renne, la contradiction ne nous fait pas rire. Il faut donc concevoir un stade parodique sérieux, où l'accumulation d'éléments détournés, loin de vouloir susciter l'indignation ou le rire en se référant à la notion d'une œuvre originale, mais marquant au contraire notre indifférence pour un original vidé de sens et oublié, s'emploierait à rendre un certain sublime. Non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais encore, se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne peut manquer d'apparaître un puissant instrument culturel au service d'une lutte de classe bien comprise. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie avec laquelle on bat en brèche toutes les murailles de Chine de l'intelligence.
comprendre que notre affaire n'était pas une école littéraire, un renouveau de l'expression, un modernisme. Il s'agit d'une manière de vivre qui passera par bien des explorations et des formulations provisoires, quittant elle-même à ne s'exercer que dans le provisoire. La nature de cette entreprise nous prescrit de travailler en groupe et de nous manifester quelque peu. Nous attendons beaucoup des gens et des événements qui viendront. Nous avons aussi cette autre grande force de n'attendre plus rien d'une foule d'activités connues, d'individus et d'institutions. Nous devons apprendre beaucoup et expérimenter, dans la mesure du possible, des formes d'architecture aussi bien que des règles de conduite. Rien ne nous presse moins que d'élaborer une doctrine quelconque. Nous sommes loin de nous être expliqués assez de choses pour soutenir un système cohérent qui s'édifierait intégralement sur les nouveautés qui nous paraissent mériter que l'on s'y passionne. On l'entend souvent dire, il faut un commencement à tout. On a dit aussi que l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre.
Il est permis de penser que les revendications révolutionnaires d'une époque sont fonction de l'idée que cette époque se fait du bonheur. La mise en valeur des loisirs n'est donc pas une plaisanterie. Nous rappelons qu'il s'agit d'inventer des jeux nouveaux.
L'international est triste, ne passera pas. 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 L'international est triste, ne passera pas.
Ils se rencontrent à des heures invraisemblables en d'invraisemblables lieux, échangent à la hâte un ou deux mots de conseil ou de recommandation, des détails authentiques sur leurs voyages et leurs investigations, leurs observations sur les caractères et sur les mœurs, toutes leurs aventures, enfin, aussi bien que les récits et autres opuscules auxquels pourraient donner lieu les scènes locales ou les souvenirs qui s'y rattachent, et poursuivent leur chemin vers la tâche désignée, puisque le temps est précieux, et qu'il suffit de 5 minutes pour mettre une vie en balance. Où je suis bien trompé, où nous tenons la plus fameuse aventure qui se soit jamais vue. L'aspect engageant de certaines localités en Irlande et ailleurs, qui figurent sur les cartes géographiques générales en couleur ou sur les cartes partielles d'état-major avec des échelles et des hachures. La détermination d'un organisme passionnel destiné à fonctionner dans ce milieu. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressemble de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie.
Achevé d'enregistrer à Paris, le 6 décembre 1956, à la permanence lettriste de la rue Montagne-Geneviève, par Michel Bernstein, Guy Debord, Jacques Fillon, Abdelhafez Khateb, Gilles Givolman.
Tonight.
Toujours sur Radio Libertaire, bien sûr, au 01 43 71 89 40. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître. Et Urbi comme Orbi, son sponsor, ni publicité. Bien sûr, 145 euros dans le 12e mardi au samedi à partir de 13h. Et bien sûr, on de choc. Une émission qui peut faire et défaire les carrières. Et les voix qu'on a entendues, bah oui, c'est un peu usé, il y a des grésillements et tout, mais c'est quand même très très intéressant poétiquement et politiquement. Ce sont les voix de Guy Debord et de ses camarades, hein. Les environs de Fresnes, ça date plus d'un demi-siècle d'ailleurs, puisque c'est 56 là, à peu près. La semaine prochaine, le 5 juin, on reprend nos directs sur Radio Liberté 89.4, et ben voilà. moment-là, on reçoit encore une fois la revue Empreinte, qui était vraiment un creuset de choses très 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 intéressantes. Et le 19 juin, 14h30, 16h, et ben, on recevra Patrick Dehasse pour son livre Le cinéma absolu ou le cinéma expérimental. Et on aura une conversation serrée sur Radio Liberté 89.4.